Comprendre aujourd'hui pour défier demain.
Aujourd'hui, on est là pour parler du livre de Yannick Metzer. Yannick Metzer, magistrat, détaché au Conseil de l'Europe et conseiller en transformation numérique et en intelligence artificielle. Et ma première question, c'est l'intelligence artificielle, mythe ou réalité ?
Merci Philippe. En effet, c'est une question, je pense, que beaucoup se posent, puisque aujourd'hui, derrière ce terme-là, qui est encore à la mode et qui a connu quand même d'assez beaux jours, je dirais que je commence, moi, de mon côté, à commencer à pressentir la petite brise d'automne sur l'intelligence artificielle. On pourra revenir sur les notions de saison, il y a eu des hivers de l'IA, et je pense qu'aujourd'hui, il faut arriver à objectiver cela. Alors, une toute petite précision avant de démarrer, hein, c'est-à-dire que, naturellement, ma vie professionnelle principale est au Conseil de l'Europe, vous l'avez précisé, je suis magistrat de l'ordre judiciaire français détaché là-bas, mais j'ai écrit ce livre avec la casquette de chercheur à l'Institut des hautes études de la justice à Paris, et également, je voulais remercier et souligner aussi l'investissement de l'Institut Présage, hein, qui m'a permis de réaliser ce livre-là, où j'interviens en tant que membre du conseil scientifique auprès de cet institut. Alors, mythe ou réalité ? Alors, il y a une partie, naturellement, de tout ça qui nous vient de magnifiques coups de force rhétoriques. Hein, on est au milieu des années 50 et ça ne vient pas de nulle part. Quand on revient sur cette idée d'intelligence artificielle, on est en 56, la conférence très connue, hein, de Dartmouth, avec Marvin Minsky et John McCarthy, et conférence au sein de laquelle, je pense que c'est important de le souligner, tout ça est un peu aride au départ. Hein, c'est-à-dire quand on parle on ne parle pas encore tout à fait d'informatique, mais quand on parle de logique, de calcul, d'essayer de reproduire le fonctionnement du raisonnement humain, il fallait un bel emballage marketing autour de ça. Et il ne faut pas oublier que Marvin Minsky et John McCarthy avaient besoin de financement. C'est le Rockefeller Institute, essentiellement d'ailleurs, qui a porté leur projet de recherche. Et c'est quand même autrement plus sexy de parler d'intelligence artificielle avec des côtés anthropomorphistes que, naturellement, de langage, de calcul, etc. Donc, tout ça est parti d'un super coup marketing, encore une fois, un coup de force rhétorique, et qui a continué à dérouler ses effets. Hein, jusqu'à aujourd'hui. Et si on devait regarder très concrètement ce que c'est l'intelligence artificielle, on a deux branches principales. C'est-à-dire que ça a couvert d'abord, au début de ses développements dans les années 60 et 70, plutôt ce qu'on appelait l'informatique symbolique. C'est-à-dire, des règles logiques qui s'imbriquaient les unes dans les autres, et où le programmeur humain essayait de reproduire son propre raisonnement ou raisonnement logique par la machine. C'était la première manière d'essayer de rendre les machines autonomes et, j'allais dire, entre guillemets, intelligentes. À côté de cela, il y avait un autre mouvement qui s'est développé. Hein, on est avec le perceptron, par exemple, dans les années 60. L'idée, cette fois-ci, était de pouvoir utiliser des données en masse pour essayer d'en révéler des lois naturelles ou des règles naturelles par un nombre très important d'observations, essayer de voir quelles sont les régularités et quelles règles on pouvait en déduire. Et cette seconde approche a eu beaucoup de mal à prendre. D'ailleurs, Marvin Minsky lui-même, à la fin des années 69, avait signé un article assassin sur le perceptron qui en avait arrêté absolument toute velléité et qui a justifié les développements ensuite de ce qu'on appelait des systèmes experts, c'est-à-dire des systèmes essentiellement basés sur des règles logiques et qui sont développés jusqu'à la fin des années 80. Et tout ça, à la fin des années 80, naturellement, c'est un tout petit peu tari, parce qu'on s'est rendu compte que les systèmes experts, notamment, étaient très chers à développer, très chers à maintenir. Certains étaient déjà des boîtes noires au-dessus de 200 à 300 règles qui étaient imbriquées les unes dans les autres. Et on pouvait arriver, parfois même avec de la bureautique très simple, au même résultat pour beaucoup moins cher. Donc, le marché a eu ses raisons, et tout cela est reparti dans les oubliettes, avec d'ailleurs une certaine pudeur à utiliser le terme « intelligence artificielle », puisqu'on avait parlé un temps, dans les années 90, d'informatique avancée, c'est toujours de l'IA, mais c'était quand même plus raisonnable. Voilà. Il y a une sorte de magie, mais on va y revenir, ce n'est pas naturellement de la magie. Trois mousquetaires, trois chercheurs de très haut niveau, Yann LeCun, Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton, qui, dans les années 2000-2010, arrivent enfin à faire vivre cette ambition connexionniste d'essayer de révéler des règles avec de grandes masses de données. Ce qui leur a permis de faire ça, c'est la puissance de l'informatique, notamment des microprocesseurs dans les cartes graphiques, La deuxième chose, une quantité massive de données disponibles sur Internet. Et ils ont pu mettre à jour, révéler cette ambition de pouvoir, encore une fois, retrouver des règles à partir de grandes données. Et ça, c'est de la reconnaissance faciale, c'est ce qui a pardon, de la reconnaissance d'image. On va parler de reconnaissance faciale peut-être plus tard, mais de la reconnaissance d'image, de la reconnaissance de voix, qui ont été, qui ont eu des succès extraordinaires par rapport aux anciens systèmes. Et 2016, une explosion à ce moment-là, avec un succès incroyable, le succès du jeu de AlphaGo face à un humain. La première fois, un système informatique arrive à emporter une série de parties, 4 parties sur 5, face à l'Isidole à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il y a à en déduire autour de ça ? J'évoque tout cela parce qu'il y a une histoire, il y a une narration. Tout ça a battu une légende où l'intelligence artificielle serait totalement supérieure à l'homme et on se retrouverait ainsi, excusez-moi de l'anglicisme, challengé par ces puces de silicone. Attention, et c'est là où, dans mon livre en tout cas, j'ai essayé dans une première partie un tout petit peu technique de démystifier ça, il y a une distinction fondamentale à réaliser selon moi entre des environnements fermés, là où ce jeu joue le jeu de Go. Hein, le jeu de Go, des pierres noires, des pierres blanches, le Goban, c'est 19 lignes sur 19, il n'y a pas de grande surprise là-dedans. La machine arrive plutôt bien, même s'il y a des possibilités exponentielles de jeu, à s'en sortir et à manipuler des choses qui sont relativement fiables. En revanche, quand vous êtes dans des environnements ouverts, et là, les environnements ouverts, j'entends des données manipulées qui sont plus qualitative, avec des règles qui sont beaucoup moins certaines et avec des données surtout qui peuvent être interprétées, qui sont subjectives. Eh bien là, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des résultats robustes. Alors, petite parenthèse, un livre formidable que je recommande, c'est celui de Pablo Jensen, « Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation », qui est un physicien qui est arrivé aussi aux sciences sociales, et qui explique très bien qu'une donnée n'en vaut pas une autre, et qu'il est naturellement la généralisation, c'est-à-dire aller de grands succès de ces systèmes d'apprentissage automatique, hein, pour employer le terme de « machine learning », donc cette informatique connexionniste, des grands succès dans les environnements fermés, on ne peut pas nécessairement en déduire des réussites dans des milieux ouverts. Et les quelques exemples que je prends la santé, je prends le domaine de l'éducation, le domaine de la justice qui m'est cher, puisque j'ai professionnel dans le domaine, et je pense pouvoir percevoir en effet les quelques tensions. La justice a un terrain de jeu extraordinaire pour les concepteurs d'intelligence artificielle, puisqu'une décision de justice a toutes les apparences de la logique. Le syllogisme apparaît en effet comme un raisonnement parfait. Sauf que pour avoir rédigé quelques décisions, malheureusement, de justice, tout cela est loin d'être parfait. C'est-à-dire qu'une décision de justice est une formalisation a posteriori d'un raisonnement où on vient justifier en droit notre appréciation de l'affaire. On passe du fait au droit. Et naturellement, cet exercice-là est un exercice de rédaction dans lequel vous ne trouvez pas, on n'y met pas nécessairement tous les éléments causatifs derrière ça. Donc, présumez que vous allez trouver dans une décision de justice tous les éléments qui vous sont nécessaires pour faire jouer une intelligence artificielle et aller trouver tous les éléments dedans, excusez-moi, c'est une ambition qui est un peu extraordinaire selon moi. Donc, le mythe, oui, une partie de mythe où l'intelligence artificielle a été vendue et est souvent vendue comme étant quelque chose d'extraordinaire, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, le serait demain, en agrégeant toujours plus de données. Mais en réalité, nous avons une barrière technologique considérable qui est juste la qualité des données que l'on manipule et dans quel environnement on se trouve. Donc, ma première réflexion est celle-ci, de se dire attention aux généralisations hâtives, encore une fois, en essayant de généraliser une technologie qui est formidable, mais qui a ses limites.